tous. Dans la deuxième partie de l'émission, retrouvez aujourd'hui l'un des plus grands linguistes et philosophes européens. Il est à lui tout seul une incarnation du couple franco-allemand. Né à Berlin, installé près de Bordeaux, Heinz Wissmann nous donnera son avis sur les propositions des 10 auteurs invités à réinventer l'Europe ce mois-ci par le nouveau magazine littéraire, en dialogue avec le directeur de la rédaction, Raphaël Glucksmann. Mais d'abord, les fiertés de Philippe Faucon. Le réalisateur revient avec une mini-série pour Arte, un nouveau long, Amine, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et une anthologie, un coffret de 9 de ses films à voir ou à revoir, dont Fatima, énorme succès en salle, 3 Césars de la profession et un prix Louis de Luc qui ne gâchait rien. Philippe Faucon est notre invité à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Fierté, c'est le titre de cette mini-série. C'est une histoire des droits des minorités sexuelles en France à travers une trajectoire personnelle, celle de Victor, ado rejeté, d'abord résigné. Même à mon âge, j'ai compris, dit-il, que ça ne servait à rien d'aller contre la connerie, surtout du plus grand nombre. Puis, émancipé, en couple libre avec Serge, qui rêve de paternité. De l'élection de François Mitterrand aux années SIDA, de la Gay Pride au Pax, du désir d'enfant au mariage pour tous, 3 générations d'hommes qui cherchent leur place dans la société. Fierté, bande-annonce.
Épouse-moi.
Pardon ?
Je sais que tu vas me dire que t'es malade. Ça va, je suis pas aveugle.
Je suis pédé. Et j'aurai pas d'enfant.
T'es malade, mon pauvre garçon ? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne ?
Je te parle d'amour et toi, tu me parles de...
C'est juste dégueulasse !
C'est ton rejet qui est dégueulasse, papa. Je suis désolé, hein, mais je ressens pas le besoin de porter tes banderoles. D'affirmer ma différence face au monde entier.
T'es l'homme de ma vie, Serge. Je t'aime.
Vous êtes le cinéaste de notre mercredi, Philippe Faucon, bonjour.
Bonjour.
Quand l'innocence termine, la fierté commence, écrit Daniel Defoe dans Robinson Crusoe. Quels sont ici les sujets de fierté pour vous ?
Alors, fierté, c'est une histoire sur une trentaine d'années, en 3 épisodes. Et donc, c'est une histoire qui raconte l'évolution d'un couple d'hommes sur 30 ans. Une histoire d'amour sur une période de 30 ans et avec ses heures, ses difficultés, ses moments forts. Et cette période se superpose à 3 moments sur ces 30 années qui vont de 81 à 2013. Elle se superpose à 3 moments qui sont 3 moments de crispation dans la société française sur la question de l'homosexualité. Il y a un premier épisode qui a pour contexte, l'élection présidentielle de Mitterrand, de 81, pardon, et donc la victoire de Mitterrand, et qui est un moment où l'on abroge des lois qui dataient de Vichy. Il y a un deuxième épisode qui a pour contexte le vote du Pax, et un troisième qui a pour toile de fond
l'adoption de la loi sur le mariage pour tous.
Exactement.
Philippe Faucon, j'en reviens à ce titre, Fierté. Pourquoi ce titre dans le premier épisode avec Victor qui est encore adolescent, il va passer son bac. On voit que c'est aussi un récit initiatique, une sorte de récit d'apprentissage que vous faites ici. Et je reprends ces mots de Daniel Defoe, quand l'innocence termine, la fierté commence, à vos yeux aussi.
Oui, et alors quand on m'a proposé ce projet sous la forme d'un synopsis, il portait déjà ce titre de fierté au pluriel.
Et vous l'avez adopté.
Et le titre a été gardé parce que je trouve que justement avec son pluriel, c'est un beau titre. Et c'est quelque chose qui n'est pas resté dans le dialogue du film, mais il y avait un moment où Victor disait à son père que il n'y avait pas de fierté particulière à être homosexuel, pas plus qu'à être hétérosexuel, mais que la fierté c'était le contraire de la honte et que lui il avait décidé de ne plus avoir honte de ce qu'il était, y compris vis-à-vis de regard qui l'enfermait dans ce sentiment. Mmh. Voilà, donc c'est un peu l'évolution du personnage de Victor, au moment de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est pour ça que la série porte ce titre.
La fierté, comme contraire de la honte, Philippe Faucon, c'est un peu une suite aussi à l'un de vos précédents films, Les Étrangers, votre film de 98, où Selim, dans le Marseille des années 90, doit affronter le rejet de sa famille qui refuse son homosexualité. Sa mère invoque déjà le thème de la fierté qu'elle associe à l'hétérosexualité et la honte à l'homosexualité. « Je marche fièrement avec mon fils devant les gens et je ne baisse pas la tête », dit-elle dans Les Étrangers. Ce n'est pas bien, ça fait honte aux gens, l'homosexualité, comprendre. On retrouve déjà cette double opposition, cette quête de fierté, Philippe Faucon, dans nos vies. Par quoi ça passe pour vous ?
Dans le fait d'assumer ce que l'on est et de ne plus vivre ce qu'on est dans la dissimulation ou la justification ou le voilà, c'est le, et donc ça c'est par rapport en premier au regard extérieur, au regard qui vous assigne, qui vous enferme, qui vous, et voilà, il s'agit de ça, c'est vrai, dans les deux histoires.
Et là, vous êtes plutôt directement du Milan Kundera dans La Plaisanterie, qui écrit « Être courageux dans l'isolement, sans témoin, sans l'attente sentiment des autres, face à face avec soi-même, cela requiert une grande fierté et beaucoup de force. »
Ben, ça, c'est une très belle phrase, oui, en effet. Il s'agit de ça.
Être bien avec soi-même, aussi dans le regard des autres, à commencer par le regard de ses parents, qui sont souvent nos premiers observateurs, le regard qui compte quand on est en tout cas enfant ou adolescent, par lequel on cherche une reconnaissance. Extrait de l'épisode 1, où Victor fait son coming out.
Papa.
Non, Victor, je veux plus rien entendre.
Papa, écoute-moi, s'il te plaît.
Je t'ai dit non, Victor, tu entends ?
Ils sont passés où, tes beaux discours ? Le dialogue, l'ouverture d'esprit, la tolérance ? Tout ça, d'accord, sauf s'il faut admettre que ton fils est pédé, c'est ça ?
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir, évidemment.
Rien à voir. Tu peux pas comprendre parce que t'as pas d'enfant, mais quand ça arrivera, quand t'auras ouvert les yeux, quand ça t'aura passé...
Charles !
Martine, j'ai besoin de ton soutien, là !
Papa, je sais que c'est difficile à entendre, mais je vais te le dire, je suis pédé. Et j'aurai pas d'enfant. Et puis quand je serai majeur, je vais partir avec Serge, que tu le veuilles ou non. Parce que je l'aime et il m'aime.
Je t'interdis. Tu entends, Victor ? Je t'interdis de revoir cet homme. Ce type est malsain, c'est un pervers. Rien d'autre qu'une petite salope qui sert de toi et qui profite de ton âge et de ta naïveté pour te sauter en prime.
Mais tu le connais pas. Je te parle d'amour et toi tu me parles de... Tu comprends rien ou quoi ?
Comprends quoi ? T'es malade, mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux que je comprenne ? Ah, c'est sûr que je peux pas comprendre. Parce que pour moi, ce que vous faites tous les deux, ça a rien à voir avec de l'amour. C'est juste dégueulasse.
C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa.
Vos personnages doivent se libérer du regard des autres, Philippe Faucon, se défaire des étiquettes. Ici, on l'entend bien. Vous avez eu le sentiment, vous, souvent, qu'on vous réduisait, qu'on vous enfermait ?
Oui. Je crois qu'on, qui que ce soit, a constamment à dire ce qu'on est par rapport à un regard qui vous restreint, qui vous résume et qui quelquefois vous enferme. En effet, là, bon voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mais d'une façon qui s'accompagne en effet d'un rejet, d'une interdiction, d'un empêchement d'être ce que l'on est vraiment. Et à tel point que le personnage lui-même, dans un premier temps, c'est-à-dire dans un moment où il est adolescent, l'assimile cette interdiction, c'est-à-dire qu'il est lui-même dans le déni. Il est attiré par des hommes, des garçons. Il a des aventures avec des hommes, tout en prétendant qu'il a une copine. Voilà. Et il y a pour lui à un moment, en effet, une mise en face de lui-même et de ce qu'il est vraiment.
Victor, votre héros, c'est une figure presque archétypale, celle du passage de la jeunesse à l'âge adulte, celle des premiers émois au désir d'être parent, celle de l'émancipation à la transmission. Mais ce film, cette mini-série, en 3 épisodes de 52 minutes, Philippe Faucon, c'est aussi vraiment un film sur le désir. Le désir, vous en avez une définition ?
Le désir, c'est le désir, c'est une projection, amoureuse ou d'envie ou de besoin par rapport à quelqu'un ou par rapport à une façon de vivre, de mener sa vie. Et donc comme tous les besoins, c'est quelque chose qui cherche sa réalisation, sa satisfaction.
Oui, c'est un art d'apprendre à ne pas se les cacher, à ne pas les refouler, voilà, à savoir les accueillir, voilà, ces voilà, désirs. Voilà, voilà. Vous, quel rapport vous entretenez avec vos propres désirs, pas simplement amoureux, mais même vos désirs de cinéma? Vous essayez de toujours les cueillir quand ils arrivent?
Oui, j'essaie d'aller au bout. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, d'aller au bout de quelque chose qui a cette importance-là. Et voilà, et qu'on réalise pratiquement ou pas, mais qu'au moins on satisfait par un éclaircissement par rapport à soi-même.
L'atout d'une mini-série, Philippe Faucon, c'est qu'elle autorise les ellipses et les sauts dans le temps. Vous avez pris le parti, vous, du linéaire, sans marche arrière, sans flashback, dans Fierté. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous que la narration s'inscrive déjà dans le présent et surtout que le récit avance, ne recule jamais?
Parce que c'est quelque chose qui est au cœur de cette histoire. C'est une avancée vitale, c'est un mouvement de vie. Et donc, voilà, on a fait le choix, mais j'ai pesé pour qu'il procède de cette façon. Et je suis pas très fan des flashbacks dans une narration à l'écran. Il y en avait un qui avait été proposé par les co-auteurs, et puis moi je trouvais que c'était ça rompait quelque chose de ce mouvement du film qui pour moi était important, c'est-à-dire un mouvement d'avancée.
La série, même mini, sera diffusée demain soir sur Arte, et elle sera diffusée en une fois. En fait, c'est pas réparti sur, c'est pas une semaine, un épisode, une semaine. Hein. C'est vraiment le principe de ces mini-séries, trois épisodes le même soir. Là, on garde le fil du coup, et en moins d'une minute, on retrouve les personnages qui ont grandi de 15 ans, de 20 ans. C'est aussi le principe de ces mini-séries. Philippe Faucon, 30 ans de lutte, vous l'évoquiez, pour la reconnaissance des droits LGBT, avec trois dates charnières: 82, l'abrogation des lois discriminatoires après l'arrivée de la gauche au pouvoir, 99, le PACS, 2013, l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, dont on vient de fêter les 5 ans. Depuis, 40 000 couples homo ont été unis par les liens du mariage. Cette loi Taubira, elle a polarisé la société au moment de son adoption, des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée pour la porter aux yeux des législateurs. Le législateur qui sait parfois aller contre l'air du temps, et la législation qui sait aussi parfois précéder l'évolution des mentalités. Je trouve que c'est aussi ce que nous rappelle votre film.
Oui, mais c'est quelque chose qui a été, je crois, à l'origine de l'idée de la série, chez les deux auteurs qui l'ont initié, et aussi chez moi dans l'envie que j'ai eue de rejoindre ce projet. C'est que je pense que tous les trois on avait été très frappés par ce moment qui a été un espèce de moment d'intense crispation de la société française, avec un million de personnes dans les rues, un débat qui a monopolisé l'attention, et puis quelque chose comme ça de très contracté, et qui s'est terminé par le vote d'une loi que aujourd'hui, 5 ans après, je pense que plus personne ne remet en question. Donc, sur ce sujet-là, la société française s'est débarrassée d'une vieille peau pour faire peau neuve, et d'une façon qui est quand même très 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 paradoxale. On ne comprend pas aujourd'hui, après coup, pourquoi il y a eu cette cette énorme poche de crispation, bon, qui sans doute peut-être a été entretenue, exacerbée pour des raisons politiques, mais il y a eu quelque chose de très frappant là à ce moment-là pour moi.
D'une crispation à l'autre, parce qu'on n'en est pas totalement privé. Aujourd'hui, les débats se concentrent sur d'autres questions, celles de la GPA, de la PMA, celles de l'adoption aussi pour les couples homosexuels. Tiens, extrait de l'épisode 2.
Pour être très clair, ce que je vous pose comme question, c'est est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris, vous, son père, qu'un homme de l'âge de Victor vous annonce qu'il envisage l'adoption seul, si jeune ? De vous à moi, il aurait aucun mal à trouver une jolie femme qui lui donnerait des enfants, vous ne pensez pas ?
Mais ça, c'est à lui qu'il faut demander, pas à moi.
Mais je l'ai fait. Il est resté assez vague sur le sujet. D'ailleurs, il n'a quasiment pas parlé de sa vie sentimentale. Son travail, oui, son désir de paternité, son enfance, ses parents. Une ex-petite amie dont il a parlé très vite, presque avec gêne, comme s'il voulait bien parler de tout, sauf de sa vie privée.
Justement, c'est sa vie privée. Pas la mienne, ni la vôtre.
J'essaie juste de comprendre qui est Victor.
Et alors, qui est mon fils, à votre avis ?
Monsieur Brigand, je ne suis pas votre ennemi, et encore moins celle de Victor, mais j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout.
Bah, dites-moi plutôt ce que vous avez envie que je vous dise.
Votre fils est-il homosexuel ?
Pas à ma connaissance, non. Mais même s'il était, en quoi ça pourrait vous intéresser ? Qu'est-ce que ça aurait à voir ?
Comprenez-moi bien, j'ai besoin de connaître tous les aspects du cadre de vie proposé. La loi n'interdit pas aux homosexuels d'adopter. J'ai déjà examiné plusieurs cas de demandeurs qui assument leur homosexualité. C'est la capacité d'une personne à être parent que j'évalue ici, rien d'autre.
Voilà, dialogue entre l'assistante sociale, celle qui mène l'enquête pour savoir si Victor, devenu adulte, peut adopter ou pas, lui se fait passer pour un père demandeur, en tout cas pour un homme demandeur hétérosexuel et célibataire. Elle mène donc l'enquête, elle va rencontrer son père. Elle est jouée par Chiara Mastroianni, dont vous avez sûrement reconnu la voix, en dialogue avec le père de Victor, Frédéric Pierrot. Test de personnalité et d'environnement, voire de bonne conduite. On en est là aujourd'hui, la crispation principale, c'est la famille qui reste le noyau presque intouchable aux yeux de certains. Une famille, et ça le père de Victor le dit, c'est un père, une mère,
oui,
et le choix de faire des enfants.
La famille a évolué par rapport à ce modèle traditionnel. Il y a des tas de familles qui fonctionnent autrement. De familles recomposées, de familles monoparentales, de gens qui ont établi entre eux des relations quasi de parents à enfants sans forcément l'être vraiment. Donc voilà, et pourtant on reste sur un principe comme ça un peu ancien, daté.
Et on sent que vous aviez envie, à travers cette série aussi, de ne pas tomber dans un pensif, ou en tout cas quelque chose d'attendu, qui aurait été de dire « Victor, une fois père, serait un meilleur père que les autres ». Il est finalement soumis au même questionnement que tous les pères, qu'un père hétéro,
oui,
et à la même pression sociale.
Et aux mêmes difficultés, et il fait les mêmes erreurs, et il est... voilà.
Et au même questionnement sur la transmission. Oui. Et en fait, c'est tout le sujet, ou tout le propos aussi de ce film, c'est de dire c'est pas un discours militant, en tout cas une sortie de pancarte ou de slogan, mais il y a quand même une part politique qui est de dire on veut juste être comme les autres, ni plus ni moins, pas meilleur, pas moins bon. Mmh. C'est cette reconnaissance derrière laquelle beaucoup courent encore aujourd'hui.
Oui, ben oui. Et le personnage de Victor, dans une scène, l'exprime comme ça auprès de son père, en lui disant Serge et moi, on est liés par des sentiments amoureux qui sont exactement les mêmes que ceux de deux hétéros, que ceux de deux personnes humaines. Et qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Voilà, il y a Tout tourne autour de ça, de cette difficulté qu'il y a à comprendre cette chose très simple qui est que c'est Victor et son compagnon sont liés par des sentiments de cet ordre-là.
Voilà, on l'évoquait en France, la situation a quand même déjà beaucoup évolué. Évoquons à Nîmes la mobilisation que vous pouvez soutenir pour Moussa, homosexuel guinéen sans papier, menacé d'expulsion, comme nous le raconte Libération, qui nous rappelle qu'il y a encore des pays où l'homosexualité est un crime. Faire fi des catégories homo, hétéro, bi, Philippe Faucon, c'est aussi l'ambition sur le ton de la comédie de la mini-série d'Olivier Joyard, J'ai deux amours, diffusée récemment sur Arte. Soit c'est un tropisme de la chaîne, soit peut-être le signe d'une évolution du petit écran et du grand écran. Rappelons que 2017 a vu triompher 120 battements par minute de Robin Campillo autour de l'histoire d'Act Up. Écoutez le réalisateur.
Moi, je suis parti entièrement de mes souvenirs. Je ne suis pas parti de matière documentaire, etc. Je suis revenu à la matière documentaire après. Moi, j'ai essayé de mettre juste en perspective plein de moments que j'avais vécu à travers une fiction, d'essayer de raconter l'électricité qu'il pouvait avoir dans les gens, parce que c'est un moment politique un peu unique, Act Up. Moi, je le pense vraiment. Et que l'espèce de jubilation qu'il y avait dans ce groupe, mais aussi la brutalité qu'il pouvait y avoir entre les gens aussi, ça me paraissait quelque chose de très étonnant. Donc, moi, je suis parti d'une matière parce que j'essayais pas de raconter historiquement quelque chose. J'essayais de raconter quelque chose émotionnellement, sensoriellement, j'ai envie de dire aussi, de raconter ce moment et d'essayer de retrouver une généalogie de ces émotions, de ces sensations jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un projet à la fois simple et très complexe.
Un cinéma sensible, nous dit Robin Campillo, le réalisateur de 120 battements par minute, et militant, trop, diront certains. Et vous, quel était votre parti pris, Philippe Faucon, autour de la question notamment du sida? Ce stigmate, cette malédiction est abordée dans votre mini-série à travers la figure de Serge, mais pas de manière centrale. Vous ne montrez pas comment le virus a aussi décimé une génération et ses rêves de liberté. Mais sans jamais l'oublier, Serge, il vit avec, il en crève lentement, mais pas sûrement. Pourquoi cette pudeur ou cette discrétion sur ce sujet?
Parce que ça raconte quelque chose qui a été quand même le vécu d'un très grand nombre de gens, c'est-à-dire que c'est le virus, c'est quelque chose qui s'est introduit dans une relation et un vécu de couple ou solitaire, mais comme ça, comme une présence de tous les jours, et qu'il fallait vivre en même temps que l'on vivait toutes les autres choses qui font une vie. Et donc voilà, nous on a choisi cet angle-là parce que d'autres façons de parler de ça l'avaient déjà été et voilà, et que ça sert à rien d'être dans la répétition de choses qui ont déjà été dites, mais voilà, nous on a essayé de restituer cette espèce d'héroïsme du quotidien qu'il y a à continuer de vivre une vie amoureuse, à continuer de vivre une vie de tous les jours et une vie de lien avec les autres, tout en étant confronté à ça.
Le réalisateur Philippe Faucon est notre invité jusqu'à midi et demi à l'occasion de la diffusion demain sur Arte de sa série Fierté, à l'occasion aussi de la présentation bientôt à Cannes dans la quinzaine de son film Amine, nouveau long métrage, et de la sortie d'une anthologie, un coffret de 9 de ses films, ce qui vient de paraître en exclusivité Fnac, mais dans tout le pays en juin.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Une anthologie non exhaustive de vos films sortis nationales, donc le 5 juin, Sabine, Mes 17 ans, Les étrangers, Grégoire peut mieux faire, D'amour et de révolte, et Sabine, Samia, Les trahisons, La trahison en version restaurée, je voulais juste le préciser. Ça fait un peu ancien monde ça, non, la version restaurée? Attention, vous allez bientôt être un réalisateur dont on restaure les films.
Oui, parce qu'on a vécu entre-temps une
révolution numérique.
Une révolution au niveau de l'image qui fait que ce qui a été tourné auparavant pour être vu aujourd'hui nécessite une restauration.
Allez, on rembobine le film avec un extrait de La trahison, de La désintégration et de Fatima.
Après avoir parlé avec vos hommes, vous regagnez votre chambre, une pièce un peu isolée vers le fond du poste. Vous lirez un peu avant de vous endormir comme d'habitude, n'est-ce pas?
Oui.
Et vers 1h du matin, le caporal Taïeb doit entrer dans votre chambre pour vous égorger. Un commando du FLN investit ensuite le poste. Toute votre section y passe. Sauf bien sûr les musulmans, qui sont tous complices.
Tous?
Tous.
Comment vous savez ça?
Ce carnet a été trouvé dans la poche d'un type qui était arrêté au moment où la scène a alerté les parents.
Arrosh l'aïd. Mbrok l'aïd, comment?
Mbrok l'aïd, vous le dites.
T'es pas sérieux, sérieux dans la pratique?
Non.
Ta famille est pratique?
Je la vois plus.
Pourquoi?
Parce que mon père veut plus que je revienne à la maison.
Ah bon, pourquoi?
Parce que si je te demande des gens honnêtes, Bro est sérieux dans la pratique.
Alors tu peux pas leur en vouloir de ce que t'es devenu.
Ouais, je sais.
Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre.
Ça me fait un peu m'énerver à persuader.
T'es d'ailleurs mettre le gars ici, bébé, mettre des riches les devoirs, t'es. Je peux pas travailler ici. Comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Donc je peux pas faire mes devoirs, je peux pas travailler.
Non, ça va là, tu te calmes, tu baisses d'un ton, s'il te plaît.
غير انا اللي ما نعرفش نكتب ونهضر الفرنسي زعما صحاباتك وكل ماتهم ينعتوا لهم انا كي كنت نقرا ما كان حتى واحد ينعت لي.
Tu nous l'as raconté je sais pas combien de fois cette histoire. C'est bon, on a compris. Mais ta génération et maintenant, c'est pas la même chose, c'est différent.
Qu'est-ce qui a changé d'une génération à l'autre, Philippe Faucon? L'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule revient avec Qui a tué mon père dans le dernier numéro des Inroc, dont il est rédacteur en chef. Édouard Louis dénonce la violence sociale et la souffrance au travail. Dans Eddie Bellegueule, il racontait comment on méprise les PD. Dans Mon père, comment on casse les hommes au travail. Dans les deux, on retrouve la honte, la culpabilité, la colère, des thèmes qui vous sont chers. Dans ce numéro de l'hebdo, il y a aussi 4 pages qui vous sont consacrées, où il est quand même assez criant que vous ne parlez pas de la même voix. Est-ce que c'est un effet de génération, ce regard fraternel, bienveillant, cet apaisement que vous portez à l'écran, Philippe Faucon, par rapport à la colère peut-être d'une jeunesse comme celle d'Édouard Louis?
Non, je ne sais pas. Il y a des personnages en colère dans mes films, dans celui dont on vient d'entendre un extrait, dans Samia, dans La Désintégration. Il y a des personnages d'une très très violente colère et dont on va récupérer et manipuler cette colère. Mais voilà. Puis il y a aussi des personnages à apaiser parce que je ne suis pas sur un seul registre et dans un seul état de sentiments moi-même. Mais je trouve que c'est peut-être un regard un peu réducteur que de résumer les films que j'ai fait à quelque chose dont la colère serait absente. C'est pas vrai du tout.
Un autre réalisateur de série, Éric Rochant, auteur du Béreux des légendes, mettait en ligne hier un texte où il disait « Les enfants d'un monde sans pitié », son premier film sorti en 89, auront changé de monde 2 fois. Le monde est toujours sans pitié, peut-être plus, on n'a toujours plus qu'une chose à faire, s'aimer comme des cons. Je ne sais pas si vous partagez ce diagnostic, mais il me reste juste le temps de vous poser une question. Philippe Faucon, vous avez écrit, réalisé de nombreux films. La Cinémathèque présentait votre rétrospective il y a 3 ans, par ce titre, une politique du personnage, le fait que tous vos films portent dans leur titre un prénom, rappelle votre goût pour les histoires intimes, le jeu et le lieu avec vous, Philippe Faucon, de tous les possibles. Un jour, peut-être un film autobiographique qui s'appellera Philippe. Il y a déjà une part de vous dans tous vos films.
Peut-être. Peut-être.
Peut-être. Merci beaucoup, Philippe Faucon.
Merci à vous.
Fierté est à voir sur Arte à partir de demain. On a hâte que vous reveniez nous parler de Amine, ce film que vous allez présenter à Cannes et dont on ne sait pas encore énormément de choses, mais on vous y croisera peut-être.
Alors,
là-bas.
À bientôt.
À très bientôt. Et je rappelle que l'anthologie, un coffret de l'ensemble de vos films, vient de paraître et pourra être trouvé sur tout le territoire à partir du 5 juin. Merci, Philippe Faucon.